écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir. Merci de suivre le journal du 24 février 2022. 43 millions d'euros, soit un peu plus de 28 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide humanitaire que l'Union européenne promet au Niger. Le commissaire à la gestion des crises est à suivre dans un instant. Les travaux du 3e congrès de l'Association nigérienne de la santé mentale ont débuté ce matin à Niamey, avec pour intérêt le soutien psychosocial en contexte de crise au Sahel. En partie magazine, nous parlerons de l'importance de la biodiversité avec des explications de l'environnementaliste Boukari Attari. Hawa Mambana au micro. Fin hier mercredi 23 février à Niamey, de la formation sur les questions humanitaires organisée par la Fondation Hirondelle, représentée au Niger par Studio Kalangou. À la sortie de ces deux jours d'échange, les participants journalistes et humanitaires se sont dit satisfaits. Écoutons-les au micro de Zainabou Abdou.
Cette formation a été une occasion d'effectuer une sorte d'immersion dans le monde des personnes vulnérables.
Vraiment, je suis très contente d'avoir eu la chance de participer à cette formation parce que ça m'a permis de découvrir et les journalistes sont dans deux mondes différents. Et ça m'a permis de voir comment organiser des cadres où l'un et l'autre nous pouvons comprendre ce que chacun fait et comment travailler ensemble.
En tant que journaliste, je sais maintenant comment préparer mon reportage lié à une crise humanitaire. Je sais aussi comment est-ce que je dois travailler avec les humanitaires pour pouvoir répondre aux besoins des populations concernées.
Pour 2022, l'Union européenne promet une aide humanitaire au Niger à hauteur de 43 millions d'euros. Une annonce faite hier soir par Janez Lenavcic, le commissaire européen à la gestion des crises, lors d'une conférence de presse à Niamey.
Je suis venu témoigner du soutien et de la pleine mobilisation de l'Union européenne. Nous augmenterons notre aide humanitaire au Niger cette année. 24 millions d'euros étaient prévus pour l'année 2022 et nous avions déjà décidé d'ajouter 5 millions et nous ajouterons encore 14 millions d'euros suite à l'appel du Premier ministre. Cela fera un total de 43 millions d'euros pour 2022. Pour l'instant, je n'exclus pas les augmentations additionnelles. Mais cette aide humanitaire ne sera jamais suffisante. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour répondre à l'urgence. Cependant, nous devons travailler à des solutions durables. Nous devons renforcer la résilience du peuple nigérien. Nous devons tous ensemble nous réunir pour faire face à cette crise, avec plus de ressources, mais surtout en créant des synergies plus fortes entre nos différents instruments.
Des propos recueillis par Rafika Attaher. Le Niger va lancer demain 25 février la 5e campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 sur l'ensemble du territoire national. Dans le communiqué, les autorités sanitaires invitent les personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner pour limiter la propagation de la maladie. Seulement, Adifa, le représentant des chefs de quartier de la ville, regrette de n'avoir pas été associé dans les préparatifs des campagnes de vaccination, estime Madou Mustapha Boulama au micro de Guidi Abdraman.
Le conseil que je donne aux gens, c'est d'aller se faire vacciner avant même que la maladie ne se manifeste dans le corps. Jusqu'à présent, je n'ai pas senti des effets secondaires ni quelconque problème sur mon corps. Présentement, il y a 4 chefs de quartier ou même 5 qui ont leur carte de vaccination. Je n'ai jamais entendu de leur bouche dire, sentir quelque chose. L'État ne nous a pas approchés. Ce genre de campagne de vaccination, pas seulement pour coronavirus, pour les autres maladies aussi. Ils devraient faire appel aux chefs de quartier, aux chefs du village, pour qu'eux aussi retournent auprès de leur population. Nous-mêmes, on est sous-informés. Comment on peut sensibiliser les autres? L'État doit comprendre ça, qu'il appelle ses chefs de quartier pour leur dire « Attention, cette maladie est dangereuse ». Comme ça, eux, ils retournent auprès de leur population pour leur dire ce qui se passe.
Début ce matin à Niamey du 3e congrès de l'Association nigérienne de la santé mentale qui est axée sur le soutien psychosocial en contexte de crise au Sahel. Participent à cette réunion le Mali, le Burkina Faso et le Bénin. Professeur Douma, enseignant-chercheur et président de l'Association de la santé mentale du Niger, nous en dit plus au micro de Samira Rouafi.
Chaque année, nous traitons des sujets qui préoccupent notre nation. Et nous avons estimé que cette fois-ci, ce qui nous préoccupe, c'est le soutien psychosocial que l'on pourrait apporter à nos populations qui souffrent de migration, qui souffrent de terrorisme et qui souffrent de la COVID-19. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous pourrions faire en tant qu'agents de santé mentale pour aider nos concitoyens qui souffrent de ces fléaux-là. En marge de ce congrès, le samedi, sera organisée une formation certifiante pour tout acteur de santé mentale qui se sera inscrit sur comment assurer un soutien psychosocial à quelqu'un qui est en situation difficile. Pour le service de psychiatrie, nous sommes 3 psychiatres, il y a plusieurs techniciens supérieurs de santé mentale, des psychologues, des assistants sociaux. À Niamey, ça va. Mais ce n'est jamais suffisant au regard de la fréquence des troubles mentaux aujourd'hui, une augmentation.
Les travailleurs chargés de la réhabilitation de la route Dogondouchi-Birninkoni ont lancé aujourd'hui un arrêt de travail de 24 heures en guise d'avertissement. Ils dénoncent les mauvais traitements dont ils seraient victimes dans leur travail, explique Abdou Malam Idi, leur porte-parole au micro d'Assoumane Moussa Arzika.
Nous leur avons adressé nos doléances par écrit. Ils nous ont dit que des solutions seront trouvées. Ils ont envoyé un agent qui est venu devant nous et nous a assuré que l'employeur a pris des engagements pour satisfaire nos revendications. Nous, tout ce que nous voulons, c'est le respect de la loi. Dans le travail, il n'y a pas d'injures ni de maltraitance. Mais nous, ils nous maltraitent beaucoup. Ils assurent notre transport à l'aller, mais au retour, non. C'est à 18h que nous descendons. Nous ne devons pas travailler jusqu'à 18h. Nous devrons être au travail à 8h et descendre à 16h. Et pourtant, nous montons à 7h pour descendre à 18h. Avant d'arriver à la maison, il fait déjà 20h. Samedi et dimanche, c'est des jours non travaillés. Ça ne peut être que des heures supplémentaires. Et même cela avec l'accord de l'employé. Ici, ce n'est pas ça. Nous sommes devenus comme des esclaves. Maintenant, nous avons écouté leur adresse. Nous allons reprendre le travail. Mais s'il n'y a pas eu de changement, nous allons encore déposer un préavis d'arrêt de travail.
Le prix de la baguette du pain à Tawa après quelques jours de hausse est revenu à la normale, 150 francs CFA. Pour rappel, ces dernières semaines, pour des raisons de renchérissement du prix de la tonne de blé à l'international, beaucoup de boulangers ont augmenté leur prix de vente du pain. Abdoulaye Makombe, vendeur détaillant de pain, explique au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
La divergence qu'il y a entre nous et les boulangers, je pense qu'elle est désormais close. Certes, auparavant, ils étaient restés fermes sur le prix de la baguette du pain qui nous sera vendue à 200 francs CFA. Et à notre tour, vendre la baguette 250 à 275 francs CFA. Durant 2 jours, nos militants payaient la baguette à 200 francs chez eux. Mais au 2e jour, parmi ces boulangers, certains ont dit qu'ils ne vont pas augmenter le prix de la baguette du pain. Quand nous avons appris cela, alors nous avons nos militants pour leur dire de se diriger tous vers ceux qui n'ont pas augmenté le prix pour acheter du pain. Pour celui qui a augmenté le pain, qu'on lui laisse son pain. C'est alors qu'avant-hier, ils ont fait sortir un communiqué annonçant que le prix est revenu à 150 francs. C'est pas comme auparavant. Dieu merci, notre objectif est atteint. Et plaise à Dieu, nous allons satisfaire le besoin de la population.
À Zendev, la commune urbaine de Matamé, dans le département de Kanché, souffre d'un problème d'incivisme fiscal. Le système de récolte des impôts entre la mairie et les chefs de quartier ne marche pas correctement. Malgré les nombreuses ressources dont dispose cette commune, estime le maire. Les explications dans ce reportage de Habou Serki.
La commune de Matamé rencontre un problème de recouvrement des taxes. Selon le maire, cet incivisme fiscal est notamment constaté en ville. Pour l'année dernière, aucun des 11 chefs de quartier de la ville ne s'est acquitté des taxes à la municipalité, contrairement aux chefs des villages, indique le maire Abdelkarim Issa.
Depuis au niveau de la ville de Matamé, la population de la ville ne paye pas les taxes. Et encore, cette population est la plus qui exige à ce qu'on lui fasse des investissements, alors qu'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Ce sont les populations rurales qui payent leurs taxes. Pourquoi nous allons prendre les recettes recouvrées auprès de la population rurale pour faire des investissements dans la ville? Ça, c'est une trahison.
Pour leur part, les chefs de quartier reprochent au maire un manque de collaboration dans la recherche des solutions aux problèmes. Megalis Raja.
Le problème ici en ville, c'est avec le maire seulement. La mairie doit appeler les chefs de quartier. On ne se comprend pas. Depuis qu'il a été installé, il ne nous a jamais concertés. Il n'y a aucune collaboration entre nous.
Ces taxes recouvrées permettent aux populations de faire des investissements pour le grand bonheur des populations.
Selon un proverbe populaire, la musique adoucit les mœurs. Pour beaucoup de personnes qui écoutent les airs musicaux propres à leurs ethnies ou à leur culture, ce tâche d'âge a tout son sens. Mamman Kourou, socio-anthropologue, souligne aussi que la musique est une arme émotionnelle qui fait partie de notre quotidien. Il est au micro de Mamman Ada.
Quand l'artiste joue, cette mise en confiance entre l'air qu'il joue et votre personnalité, il va instaurer un système. Ce n'est pas une transe, mais une sorte d'émotion que vous ne pouvez pas contenir. Et cette émotion va s'ériger en transe. Quand vous prenez le molo aussi, de par les airs que cet instrument joue, vous allez voir les gens se mettre en transe. Et plein d'instruments que nous jouons ici au niveau de notre pays, chaque catégorie, chaque sous-groupe ethnique adopte un instrument. Voyez comment les instruments confectionnés peuvent mettre les gens en transe. Et seule cette musique-là, seuls ces instruments-là sont à mesure de provoquer cette situation.
Nous arrivons à la partie magazine de ce journal. La biodiversité joue un rôle indispensable dans l'alimentation sur la terre, expliquent les spécialistes de l'environnement. Celle-ci est fortement menacée de disparition de nos jours à cause des effets du changement climatique. L'environnementaliste Boukar Attari explique qu'il est temps d'agir pour éviter davantage sa dégradation. Il est interrogé par Assoumana China.
La biodiversité, c'est la diversité de la vie sur la Terre. Par diversité de la vie, il faut entendre tout ce qui est vivant, y compris l'homme d'abord. Quand on dit diversité biologique, on peut les catégoriser en trois éléments, ça peut être plus, hein. Mais les principaux sont au nombre de trois. Il y a les écosystèmes, c'est un ensemble d'éléments vivants et non vivants, et ensemble, ils forment une entité fonctionnelle. Je peux vous donner le cas d'une forêt, par exemple. Ça, c'est le premier niveau de la diversité biologique. Les deux autres niveaux, il y a la diversité des espèces. C'est la différence entre les espèces. On peut citer le mil, le chameau, la vache. Le troisième niveau, c'est la diversité à l'intérieur d'une espèce. On l'appelle aussi diversité génétique.
Quelle est l'importance de la diversité biologique?
La diversité biologique est très, très, très importante et à plusieurs niveaux. Si vous prenez notre alimentation, le blé, le riz, la viande, ce qu'on met au niveau des sauces, à 99%, tout est biologique. Donc, ça veut dire que la diversité biologique, c'est la vie.
Quelle est la situation de la diversité biologique aujourd'hui?
Le rythme de disparition des espèces est vraiment alarmant. Les gens parlent des milliers d'espèces par jour. Donc si le rythme là continue, ça veut dire qu'à un certain moment, nous allons nous retrouver autour de 2 à 3 espèces. Donc ça veut dire que la réduction va empâter sur le contenu même de ce que nous allons manger. Et ça peut amener à des maladies. Des maladies, on passe de l'autre côté. Donc c'est la qualité de vie même qui est vraiment menacée.
Comment faire pour préserver la diversité biologique?
Maintenant, on est venu à la limite, retournons derrière. Mais derrière là, si tu n'as pas gardé, si tu n'as pas préservé, tu ne vas rien trouver. Donc c'est pourquoi les États doivent penser dès maintenant à capitaliser toutes ces connaissances traditionnelles, donc au point de vue et préparation, etc., donc utilisation des espèces à des fins de l'alimentation. Sinon, on sera perdu, il n'aura plus ces espèces et nous allons être alimentés par les oiseaux et l'état sanitaire va encore être pire.
C'est la fin de ce journal à 18h15. Suivez le forum du studio Kalangou qui a pour thème la consommation des stupéfiants par les jeunes filles et garçons de la commune d'Agadez. Quel impact sur leur vie dans une présentation de Moussa Maman. En attendant, je vous propose le journal en tamajek avec Tavnan Foudey Ahmed.